Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous raconte des trucs super cool, non, où on vous recommande plutôt des trucs super cool. On est deux, je suis Patrick Béja, il est Pascal Mabi pour notre troisième épisode ensemble de cette session. Comment ça va Pascal ?
Eh ben écoute, ça va très bien. Ravi Patrick de te retrouver encore une fois pour partager avec toi nos passions culturelles.
Écoute, on a été vraiment en synchronisation de nos âmes là sur ces deux premiers épisodes. Je me demande si ça va continuer parce que toutes nos recommandations sont partagées par l'un et l'autre et l'enthousiasme communicatif se communique.
C'est vrai. C'est pas facile d'arriver à ne pas avoir les mêmes choix, donc. On va voir. Mais c'est ouais. Peut-être l'épisode du... On va voir.
De la Discord.
Ah, attends, faut teaser.
Oui, non, on va voir ce qui va se passer, effectivement. Eh bien, écoutez, je vais commencer tout de suite avec un film que, comme on parlait de Mad Max Fury Road la dernière fois, ce film aussi, je l'ai vu peut-être, je sais pas, 5 ou 6 fois, et je ne m'en lasse pas. C'est un film incroyable, un coup de maître, qui est peut-être... un petit peu... Bon, en même temps, j'allais dire qu'il est moins à recommander à tout le monde, mais Fury Road est un petit peu particulier aussi. Donc, j'irais, il est aussi universel, en ce sens qu'il n'est pas universel. Il faut avoir certaines prédispositions pour l'apprécier. Mais si on l'apprécie... Ah, bon sang, comme on l'apprécie. J'arrête le suspense. Je vous parle de Lost in Translation, qui est un film de Sofia Coppola, sorti en 2003, avec
Scarlett Johansson.
Merci.
Et Bill Murray.
Voilà. Scarlett Johansson et Bill Murray. C'est un petit peu le film qui a fait revenir Bill Murray dans la conscience des gens. Il l'avait un petit peu oublié depuis quelques années. Et c'est un film à la fois particulier et enchanteur. C'est un film qui se passe au Japon. Pour vous expliquer rapidement l'histoire, Bill Murray joue le rôle d'un acteur un petit peu, enfin connu, mais un poil sur le retour, ou en tout cas qui n'a pas non plus le qui n'est plus hyper en forme, il est plus hyper jeune, ça c'est certain. Et il va au Japon pour tourner une publicité pour un whisky, pour lequel on le paye très cher, comme c'est on le sait, c'est souvent le cas pour des acteurs américains, ils vont faire des pubs au Japon, et il est dans son hôtel, sa vie de famille est pas hyper joyeuse. Il est dans son hôtel, il s'emmerde un peu et il va rencontrer une fille beaucoup plus jeune que lui qui est là avec son mari photographe. Et son mari photographe, il est très occupé et donc elle s'emmerde un petit peu aussi. Et il va se jouer une histoire entre eux. Donc je vais pas aller plus loin. Et en fait, je vous ai raconté une bonne partie de l'histoire, mais l'histoire n'a pas énormément d'importance finalement dans ce film. Ce qui est important, c'est à la fois le Japon qui est vraiment le troisième personnage du film, qui est omniprésent évidemment dans le film, mais plus que simplement comme le cadre de leur aventure, mais vraiment comme un elle joue énormément, Sofia Coppola, avec le japonais, les personnalités des japonais, les petits trucs bizarres qu'on peut trouver dans Tokyo, etc., etc. Et puis, le deuxième élément essentiel, c'est la mise en scène absolument enchanteresse de ce film. C'est vraiment un chaque image est délicatement composée, chaque image est enchanteresse. Enfin, je répète cet adjectif, mais enchanteur est un terme qui est vraiment approprié au film à mon sens, et chaque image nous transporte. On a le Japon et la délicatesse de cette mise en scène qui nous place, je vais utiliser des mots forts parce que j'aime beaucoup le film, mais ce film, c'est presque une expérience, c'est presque une transe. On se laisse envoûter, emmener, transporter par le film. on emmagasine, on reçoit les émotions qu'il va vouloir nous faire passer. Vraiment, l'histoire a finalement assez peu d'importance, mais on va passer par toute une série d'émotions. Et puis, à la fin de ce voyage, de ce tunnel, on a été, comment dire, on n'est pas passé à la machine presque, mais on a été... on a ressenti quelque chose et on n'en est pas épuisé, mais un petit peu, on se soupire, mais un soupir de satisfaction. C'est genre, ah, c'était, j'ai ressenti des trucs. C'était quelque chose qui s'est passé dans ma vie, quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, dis-moi ce que t'en penses, si la description est apte ou pas.
Mais... Écoute, c'est marrant parce que tu vois, la dernière fois, on a parlé de Mad Max, et pour moi, c'est exactement la même chose, mais dans un univers totalement différent, avec un rythme complètement différent. Ces deux personnages, finalement, sont prétextes, l'histoire est prétexte à s'évader. Et je suis comme toi, moi, j'avoue, je l'ai regardé, j'ai été le voir à reculons à l'époque, parce que bon, je connaissais un peu Sofia Coppola et je savais que c'est un cinéma qui joue énormément sur l'ennui. C'est vraiment une thématique qu'elle aime beaucoup travailler dans ses films. Et finalement, je me suis retrouvé embarqué. J'ai presque failli acheter un billet pour Tokyo à la fin, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que ces personnages sont embarqués dans une ville complètement différente de nous, de notre culture, et comme on est occidentaux comme eux, on se retrouve vraiment à être perdu avec eux, et je trouve que c'est extrêmement bien rendu, la solitude et le, je sais pas comment expliquer, l'incapacité de communiquer à l'étranger tout en étant amoureux du pays et en passant des moments exceptionnels et en ayant des souvenirs fabuleux, quoi.
Ouais, on sent qu'il y a vraiment de l'autobiographique dans son film. On sent qu'elle a, elle, vécu ce genre de choses. Évidemment, donc la fille de Coppola, on se doute bien qu'elle a eu une enfance particulière. Et là, c'est hyper bien retranscrit. Moi, qui suis, je pense que les gens qui écoutent mes émissions le savent, qui suis éperdument amoureux du Japon et à la fois totalement hérissé par le pays, je retrouve peut-être plus que d'autres dans ce film des choses qui me parlent vraiment. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai un amour immodéré pour le film. Mais je sais que je suis pas le seul. Ma femme, qui aime le pays aussi, mais qui le connaît un petit peu moins, adore le film également. Je sais pas si toi t'es déjà allé au Japon, Pascal.
Non, pas encore. J'espère. D'accord. Pour l'instant, je visite les États-Unis, mais après, je ferai l'est du monde.
D'accord.
Ben, mais écoute... toi qui as vécu là-bas, ça m'intéresse. Tu vois, ça m'intéressait d'avoir ton ressenti parce que ça me rassure parce que j'avais la sensation que c'était pas un film à touristes, que c'était vraiment une immersion dans le réel.
Bah, complètement. Bon, évidemment, elle exagère certains aspects qui sont.
Ouais, c'est du cinéma.
C'est du cinéma, voilà. Mais il n'empêche que je peux tout à fait imaginer que ces scènes-là se sont passées comme ça, à quelques petits poils de trucs près. Les émissions de télé, pardon.
Non, mais c'est intéressant.
Ouais, les émissions de télé, par exemple, sont, il y en a des comme ça, des complètement loufoques. J'imagine tout à fait la scène où il doit filmer sa pub. Moi, j'ai vécu dans cet univers aussi. J'ai beaucoup travaillé avec des Japonais dans l'univers de la pub. Enfin, je faisais de la production de pub à Paris. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Mais j'ai fait de la production de pub en Europe avec des Japonais. Il y en avait aucun qui était aussi détestable. Mais par contre, il y avait ce genre de problèmes de traduction qui se faisaient ressentir et c'était pas évident. Donc, ils vont dire une phrase entière. Toi, tu traduis ça en quelques mots parce que, ils mettent les formules, les machins et tu veux pas dire exactement ce qu'il a dit. Enfin, c'était très drôle. Et il y a vraiment cette authenticité, un tout petit peu patinée de cinéma, mais cette authenticité qui se ressent. C'est l'un des films les plus authentiques, non pas qui t'explique pas, qui te filme pas la réalité, c'est pas un documentaire, mais qui te retranscrit le sentiment que tu vas avoir sur le Japon. C'est vraiment ça. Et c'est marrant que tu dises c'est très comparable à Fury Road, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre culture et notre génération, qui se diraient des gens qui vont aimer un film comme Fury Road, tu vois, c'est des gens qui aiment le cinéma violent d'action, qui vont pas apprécier quelque chose d'un petit peu plus subtil ou d'un petit peu plus intellectuel. Et je dirais deux choses. D'une part, ce sont des gens qui ne comprennent pas des films comme Fury Road. Il y a beaucoup de films d'action très vides, mais il y a aussi des films un petit peu plus violents qui ont cette profondeur. Et c'est aussi des gens qui ne vont pas comprendre qu'on puisse, nous, apprécier ce type de cinéma beaucoup plus introspectif, beaucoup plus intellectuel. Et vraiment, le parallèle est complètement valide. Il y a une vraie correspondance dans des styles complètement différents d'émotions, de sentiments, de la manière de faire passer ces sentiments entre Fury Road et Lost in Translation.
Donc, je dirais, Patrick, que ce sont deux films où on sent que le réalisateur aime le spectateur et ne voit pas qu'un consommateur, mais veut lui faire passer une émotion forte, qu'elle soit une introspection sur soi-même, que ça soit de l'action à l'écran. C'est franchement, pour moi, ce sont deux films qui ont une vision du cinéma qui me parle, c'est-à-dire un cinéma qui est capable de parler de tout, dans toutes les situations, dans tous les lieux, toujours en respectant le spectateur, en lui donnant toujours la possibilité d'avoir plus qu'un film. Et pourtant, ça n'a rien à voir sur le papier, si tu veux. Ça pourrait choquer les gens de dire que c'est la même chose. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce rapport au cinéma que je trouve fabuleux, quoi. Moi, Lost in Translation, Et je parle pas parce qu'il y a Scarlett Johansson, parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle est extrêmement bien mise en avant dans ce film. le film démarre sur elle quasiment et dans une tenue qui a marqué beaucoup de gens. Et qui, je pense, a lancé la légende. Il n'y avait pas Google à l'époque, mais j'imagine bien. Enfin, il y avait Google, mais disons qu'aujourd'hui, je suis sûr que les gens seraient tout de suite sur Google pour dire « Mais qui c'est cette fille ?»
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr.
Parce que bon, son premier film était « L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux ». Je ne suis pas sûr que tous les amateurs Scarlett Johansson masculins l'avaient vu. Donc là, c'est la révélation.
Non, c'est sûr. Et puis ce qui est assez intéressant aussi, c'est que contrairement à la Scarlett Johansson qu'on connaît aujourd'hui, qui est très
caricaturale presque, on va dire.
Ouais, elle est vraiment très maquillée, elle est pas mal, mais elle est beaucoup plus plastique. Dans ce film-là, elle est un petit peu plus jeune et surtout encore plus que d'être plus jeune, elle est très naturelle. Elle est pas vraiment enrobée, mais elle est normale quoi. Elle a une forme de personne normale. Elle a pas la taille complètement ceinturée, elle est pas fine comme une allumette, elle est un tout petit peu chubby, on dirait en anglais, mais un tout petit peu, et pourtant elle a un charme fou, bref.
Oui, puis c'est agréable aussi de voir Bill Murray dans un rôle, que depuis il a beaucoup plus développé, mais qui est moins comique, je dirais à gag, vous voyez, c'est-à-dire que c'est un personnage qui reste drôle rien que dans le sourire, dans le regard, on sent la malice. Il se retrouve toujours dans des situations où finalement il ne peut pas s'exprimer parce que tu vois, il comprend rien ce qui se passe, mais c'est ça qui est marrant, c'est un acteur prolixe qui se retrouve dans des situations où il est complètement paniqué. Parce qu'il comprend rien et ça vraiment il le joue très très bien et ça pour ça Bill Murray il est exceptionnel, cette capacité de vous regarder dans les yeux en vous disant mais vous êtes d'accord avec moi, cette situation est totalement loufoque.
Ouais, complètement. Il y a vraiment cette complicité qui s'installe entre le spectateur et lui, on a l'impression d'être avec lui vraiment, de vivre ça à côté de lui quoi, donc c'est le genre de film que je peux voir vraiment tous les ans avec un immense plaisir. C'est un film assez unique là encore. Donc voilà. Non, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, je suis content parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tardivement, que j'ai le Blu-ray depuis et j'avais même le DVD, c'est pour te dire, je le rachète.
DVD.
Oui, mais je le rachète sans jamais le regarder, mais je sais qu'il fallait que je le voie. Ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai eu une claque. Et je suis content d'en parler avec toi parce que toi, ayant vécu là-bas, ça ne fait que confirmer la sensation que j'avais. Parce que vous n'avez pas le syndrome, par exemple, quand ça se passe en France avec l'ADS, le mime, et puis le béret et la baguette, quoi.
Complètement. Oui.
Et c'est ça qui est cool, quoi. C'est un Japon qui existe.
Tout à fait. Et ouais, je voulais dire un dernier truc et j'ai oublié. Bon, je sais pas. Bref, peut-être que ça me reviendra.
Désolé.
Non, mais c'est. Enfin, bon, bref, peu importe. Allez, on enchaîne. Là encore, on pourrait en parler très longtemps. On enchaîne avec, un retour aux jeux vidéo, tiens.
Mais on fait dans l'asiatique aujourd'hui. je viens de réaliser parce que. Alors, nous allons parler d'un jeu pour PS4 qui s'appelle Dragon Quest Heroes. Il y a un sous-titre, je vous le dirai qu'une fois parce que je vous avoue, il est un peu long. Le crépuscule de l'arbre du monde. Et comme je ne suis pas spécialiste de l'univers de Dragon Quest, il paraît que pour les fans, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que ce serait comme le retour de Dark Vador,
chose comme ça.
Attention, là ça rigole pas, là on est dans un... Bon alors, figurez-vous que j'ai entendu parler de ce jeu parce qu'il est sorti il y a déjà un certain temps au Japon et tous les retours étaient fabuleux en disant oh, c'est un jeu exceptionnel et j'étais assez pas réfractaire parce que j'ai toujours une approche curieuse de tout, mais j'avoue que ça ne parlait que de sujets qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire que c'est une licence connue de RPG japonais qui a été adapté sur un gameplay de jeu très particulier qui s'appelle le Musou. Et le Musou, en fait, c'est vous êtes un personnage au milieu de milliers d'ennemis et vous appuyez sur une touche en boucle pour tous les anéantir. Et si vous voulez, le Musou, c'est un peu comme un jeu de football ou un jeu de course. Et c'est un style de jeu tellement particulier que soit on adhère et on jouera à tous les épisodes qui sortent autour de ce gameplay, soit on n'y jouera jamais. Et moi, je m'étais dit, sachant que Dragon Quest a été créé graphiquement par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball Z. Toriyama, excuse-moi. Ah, c'est ça quand on a un consultant avec soi de l'Asie.
Nipophile, oui.
Nipophile, c'est très précis. Et si vous aimez l'univers graphique de Dragon Ball Z, déjà, ça ne peut que vous parler parce que c'est... Parce qu'on retrouve cette
patte. C'est vraiment le même style, complètement.
Voilà, mais je dirais que c'est encore plus travaillé, parce que comme c'est dans de l'heroic fantasy, il y a des costumes, il y a des armures. Moi, j'aime beaucoup Dragon Ball, j'adore l'univers graphique, mais je trouve que c'est toujours dommage, parce que finalement, ils sont toujours en pyjama. Et tu vois, je me dis, son travail artistique est un peu limité graphiquement. Alors que là, dans Dragon Quest, il y a de tout. Il y a des fées, il y a des guerrières, il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des monstres. En veux-tu, en voilà, graphiquement, ça va dans tous les sens. Et donc, pourquoi je vous parle de ce jeu? Parce que j'ai un gros coup de cœur, j'avoue. J'ai découvert un jeu qui, pour moi, est indispensable si vous avez une PS4.
Et je dirais...
Oui, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je retrouve enfin sur ma console PlayStation la magie des jeux que j'ai aimés chez Nintendo. Ce qui est souvent dommage, en fait, c'est que je trouve qu'on a trop segmenté les jeux entre les jeux pour enfants sympathiques à la Mario, qui sont pas des jeux pour enfants obligatoirement, et des jeux pour adultes qui sont joués par des enfants, type Call of Duty, où ça se veut très sérieux, très premier degré. Et ce que je trouve très intéressant dans Dragon Quest, c'est qu'il y a un univers graphique qui pourrait rappeler l'univers de qu'on retrouve dans les produits dans les jeux qui sont sur une Nintendo, et en même temps on retrouve il y a un gameplay qui est très très poussé parce que Omega Force, qui a produit le jeu, qui est le spécialiste de ce style de gameplay, les jeux les plus connus, c'est Samurai Warrior,
Sengoku Musou qui est une série t'as raison, c'est Samurai Warrior, c'est une série légendaire qui existe depuis 20 ans au Japon, qui se base sur le Sengoku une période spécifique.
Une période très spécifique de la Chine, si je dis pas de bêtises. C'est des jeux japonais sur l'histoire de la Chine, non, c'est pas la guerre. Enfin, ça a l'air très très nébuleux. En plus, ça change de nom entre chaque pays, donc résultat, on sait jamais trop de quel jeu on parle. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris le meilleur des deux. C'est-à-dire, ils ont pris un gameplay super fun. Et là, honnêtement, sur PS4, c'est cool. Parce qu'avoir tous ces décors sublimes, tous ces personnages à l'écran, ça rame pas un instant, c'est fluide, c'est fun. Et ils ont pris aussi le meilleur de Dragon Quest, c'est-à-dire le côté RPG. Ce qui donne une replay value, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Disons que le jeu, on ne s'ennuie jamais parce que comme dans Destiny, et là je reviendrai si vous avez écouté la toute première émission de notre série avec Patrick, comme dans Destiny, à chaque fois que vous avancez, il se passe quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer l'aventure. Je vais vous faire rapidement le pitch de l'histoire, mais je vous avoue, c'est un scénario de RPG japonais, donc c'est très basique, c'est très sympathique, mais c'est pas, vous attendez pas à... c'est pas Game of Thrones. Hein. En fait, vous êtes dans un monde. C'est vrai parce que au début, quand ça démarre, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai acheté quoi. Alors au début, ça démarre dans une espèce de fête foraine de village où on se rend compte que les humains et les monstres s'entendent tous très bien. Et puis là, il y a un méchant magicien avec une moustache. qui a, je sais pas, il n'a pas dû être invité à la fête, donc il est vénère. Donc il envoie un sort magique d'une complexité, il fait exploser un volcan et tout. Enfin, c'est, attention, hein, ça rigole pas. Qui fait que à un instant T, les monstres redeviennent les fameux monstres qu'on connaît qui sont méchants et commencent à se fighter avec les humains. Donc voilà, ça c'est à peu près le scénario. J'ai bien avancé dans le jeu, mais je suppose que le but final c'est de comprendre. Mais pourquoi? Qui est-il? Tout ça. Bon. Ça sera sûrement le frère du héros ou je ne sais quoi, bon, comme d'habitude. Mais voilà, ça, c'est le point de départ de l'histoire. Donc, n'y jouez pas vraiment pour l'histoire. En plus, c'est très taiseux, c'est très bavard, c'est très japonais. Je ne sais pas si tu, Patrick, tu as regardé, toi, l'attaque des Titans, par exemple.
Oui. Ouais. Enfin, j'ai regardé la première saison, si
bon,
je ne
m'abuse. Voilà, c'est pour 2 minutes d'action, tu as 3 heures d'explication. Ah, mais si je... Bon, bah là, c'est pareil. Si je sors mon épée maintenant, je l'aurais sorti trop tôt. Comment je vais faire pour prendre mon bouclier? Donc, bon, tout ce qui est l'aspect histoire, cinématique et tout, c'est super bien fait. Mais on va dire que, bon, si vous rentrez pas de... Si c'est pas votre kiff, c'est pas là que vous allez vous éclater. Mais alors, le jeu, il est magique. D'abord, je trouve que c'est grisant de se retrouver au milieu d'une arme. Armée de monstres, mais je dis une armée. Alors, il paraît, j'ai entendu dire que pour ce genre de jeu, il n'y en a pas tant que ça. Bah, non, bah, moi, je ne sais pas, il doit y avoir une centaine ou 200 sur... Et vous êtes là avec votre épée, et au début, on se dit, mais comment on va arriver à battre tout ça, tu vois? Et puis là, en fait, on se rend compte que très vite, on a des super pouvoirs de la mort, ou quand on envoie l'épée, on en tue 50 d'un coup et tout. Et ça devient super grisant. Il y a des monstres qui font 10 mètres de haut, on leur arrive au bas du pied, un peu comme Shadow of Colossus, vous voyez. Et toujours avec cet univers graphique d'Akira Toriyama, très dessin animé, qui rend le jeu vraiment, vraiment cool, quoi. C'est super cool à jouer. Alors... J'ai entendu dire, parce que je vous dis, moi, je débute, je suis complètement novice, j'ai entendu dire que les gens étaient un peu déçus parce que il y a pas de mode coop, c'est-à-dire que ça se joue seul et que comme on interprète plein de personnages différents, ça serait sympa qu'on puisse tous les jouer à plusieurs avec un écran splitté et tout. J'ai cru comprendre que ça allait arriver ou que c'était des options qui étaient en cours d'amélioration, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu solo, mais vous allez partir dans une aventure, mais exceptionnelle, quoi.
Écoute, tu m'as vachement donné envie. C'est vrai que j'en entends parler depuis quelques temps de ce jeu, mais je l'avais moi aussi un petit peu relégué du côté des jeux genre bon bah c'est un mousseau et puis c'est pas mon style de jeu et puis en plus c'est Dragon Quest, j'ai jamais fait un Dragon Quest de ma vie.
Moi non plus.
Et peut-être qu'effectivement ça serait, parce qu'en plus dans les mousseaux il y a la version Zelda qui est sortie il y a pas si longtemps, je me souviens même plus du
Hyrule Warriors.
Voilà, Hyrule Warriors sur Wii U,
qui est fait par le même studio en fait, qui a l'air d'avoir le monopole du concept, c'est-à-dire
ouais,
que...
il y a qu'eux qui en font. Et en fait je me disais bon, il était pas mal, mais il était étonnamment bon selon les amateurs.
Oui.
Et vraiment les gens s'étaient dit ah ouais, en fait c'est pas juste un spin-off complètement inutile, fait là juste pour faire de l'argent, il est vraiment sympa. Et j'avais été intrigué, tu vois, j'avais levé un sourcil, je me disais, ah, bon, ok, peut-être, pourquoi pas. Et puis là, le deuxième spin-off de cette série, enfin, de spin-off, non, mais le deuxième jeu sur ce concept qui sort avec des reviews effectivement extrêmement positives, Et en plus, Pascal Mabi qui vient me dire ça dans Positron, je me dis, à ce moment, peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse. Donc, je sais pas, peut-être que je vais me lancer, quoi.
Écoute, je le conseille aux gens, si bien sûr, regardez des vidéos, des images, renseignez-vous, parce qu'il faut que ça vous plaise déjà un peu graphiquement. Mais si vous avez aimé Zelda, parce qu'on retrouve ce côté, j'aime bien moi, les petits villages avec les commerçants et qu'on échange des pommes contre des armures et tout ça. si vous aimez, les jeux où vous bastonnez un peu à l'ancienne, comme sur les jeux Mega Drive, Street of Rage, tout ça, c'est vraiment fun parce qu'il y a tellement de monstres à l'écran que c'est grisant de voir une telle puissance dans ses mains. Ça rappelle un peu Batman quand il a tous les gadgets. Quoi, c'est ça y va de partout. En plus, ça ne rame jamais, donc on se sent jamais limité par la puissance du jeu. Et puis, si vous aimez ce côté graphisme un peu, c'est très travaillé, c'est très joli, c'est très drôle. En plus, il y a beaucoup de second degré, les personnages sont très marrants. Le héros qui a l'air un peu, je le découvre, hein, mais qui a l'air un peu neuneux, un peu premier degré, se fait troller par toute son équipe qui se fout de sa gueule. Donc j'ai vraiment été surpris en plus parce que ça se prend pas au sérieux. C'est une bonne surprise et je vous en parlais aussi parce que en cette période de fin d'année de Noël où il y a les Battlefront, des jeux plus classiques, les Assassin's Creed, tout ça, c'est un jeu qui est moins cher que la moyenne puisqu'il est à 60. Moi j'ai payé 60 au lieu de 70 déjà. Ça commence. Moi je trouve que c'est plutôt sympa parce que vu le contenu, c'est pas volé du tout. Il est prolixe et peut-être que c'est le genre de jeu qui va passer un peu à la trappe parce qu'il sort à un moment où il y a trop de blockbuster et je pense que si vous avez l'occasion, j'espère qu'il y aura une démo peut-être d'ici là, mais si vous avez l'occasion de l'essayer, regardez des vidéos et si ça vous tente, vous allez passer un super moment.
Bah écoute, je viens de faire un truc, j'ai mis dans mon panier. voilà, tu m'as convaincu. Bon, très bien, et bah écoute, merci beaucoup pour cette recommandation, cher camarade. Est-ce que tu peux nous dire, puisqu'on conclut cet épisode... Ah non, tiens, quand même, on a oublié de le faire encore une fois, comme à l'épisode précédent, mais en fait, je vais faire, hop, ceci. Non, ceci. Vous l'aurez compris, c'est la musique de Lost in Translation. Ah, qu'est-ce que c'est toute la musique est dans cette... Tiens, je vais mettre un autre morceau que j'adore.
Ah, elle a toujours des BO exceptionnels pour tous ces films. Hein.
C'est R qui a composé l'essentiel de la bande annonce, de la bande originale, si je ne m'abuse.
Oui, et je pense qu'il y avait déjà un peu de Phoenix à l'époque.
Ah, d'accord.
À vérifier, mais je me demande s'ils ne se sont pas rencontrés à ce moment-là.
Ouais. Non, mais t'as raison, effectivement. En l'occurrence, ce morceau-ci s'appelle Alone in Tokyo et c'est R qui l'a composé.
Ouais.
Et c'est... Mais c'est Z, quoi, ça se... Et pour le morceau de Phoenix, c'est plus ceci.
Oui, Orphanel Steel. Hein.
Exactement. Ah, oh, ça me refait passer des images du film là. C'est fou. Voilà, donc c'était pour la petite pause musicale. Comme dans Fury Road, en fait, la musique joue un rôle tellement important pour créer l'ambiance que je voulais pas passer complètement à côté. Et donc, maintenant, on peut parler de la fin de l'épisode et demander à Pascal où on peut le retrouver sur Internet.
Vous pouvez me retrouver principalement sur Twitter, Pascal Mabi, tout attaché, sans E à Pascal, deux L à Mabi, où je publie pas mal de trucs autour des drones, l'impression 3D, enfin tous ces sujets qui me taraudent. Un Instagram, pareil, Pascal Mabi, où alors là, je mets des petits croquis de robots que je dessine le matin, de drones. Et puis sinon, mon podcast vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube, qui s'intitule Imprograph, et qui est un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit, en temps réel, avec mon camarade Bob Lefeutre.
Magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook également, et les notes de cette émission que vous pouvez retrouver sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez également d'autres podcasts, comme par exemple au hasard le rendez-vous tech qui vous parle d'actu tech, le rendez-vous jeu qui vous parle d'actu jeu, et Upload qui vous donne des recommandations d'app à faire manger à votre appareil mobile. Tout ça, c'est sur frenchspin.fr. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment en notre compagnie, donc on est content. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la session mabillienne. Ciao à tous.
Salut. Oh.